la 18e édition du Festival MuTech se tiendra du 22 au 27 août à Montréal avec une centaine d'artistes, dont Daphne, Aurora Halal, Surgeon, Robert Henke, Nicolas Cruz et Zip. Scène extérieure, performance audiovisuelle, soirée drone, house, techno ou expérimentale, 6 jours et nuits de découverte. Info sur mutech.org.
Choc.ca s'associe aux soirées d'écoute publique en partenariat avec les RIDM et Prime pour la deuxième édition du concours de documentaire sonore « Le réel à l'écoute ». Vous êtes un créateur sonore canadien et vous travaillez sur des œuvres francophones. C'est votre chance de remporter plus de 1 000 $ de prix et une place dans la programmation des RIDM 2017. Vous avez jusqu'au 31 août minuit pour soumettre votre projet sonore de 10 minutes maximum. Pour participer ou obtenir plus d'informations, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet « Le réel à l'écoute ».
Hey, les shows de Ruelle reviennent cette année dans la ruelle Gaboury d'Hochelaga. Le concept est simple. 5 jeudis soirs avec des shows d'artistes québécois gratuits, de la bonne bouffe et de la bonne bière. Le 29 juin, à la Claire Ensemble. Le 13 juillet, Fred Fortin. Le 27 juillet, Les Deux Luxe. Le 10 août, Xavier Caféine. Et le 19 août, un artiste surprise. Ça va être un show raide d'Hochelaga cet été, alors manque pas ça!
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Le Festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain, devant toi, aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Pop en Stock. Le Pop en Stock 145 pour être plus précis. Quelque chose d'assez extraordinaire que l'on n'atteint pas à tous les jours. Oui, notre 145e épisode qui se fait dans un contexte bien particulier, dans le meilleur des contextes, nous dirons. J'ai activé les caméras malgré qu'on me voit courir de partout. Bonjour, mon nom est Jean-Michel Bertrand, mais j'imite la pieuvre en ondes. Heureusement, je ne suis pas seul. Je suis entouré des meilleures personnes au monde que vous allez entendre à l'instant parce que j'ouvre les micros pour que vous puissiez tous participer à cette expérience hautement sensorielle d'entendre les feuilles de notes et les laptops ouvrir puisque Pop en Stop est une émission assez pertinente à ces heures. Aujourd'hui.
À ces heures.
Et les rires, c'est aussi quelque chose, un stamp, un trademark, une touche, somme toute, très personnelle par rapport à l'émission. Aujourd'hui, on fait une émission spéciale qui reste dans la programmation régulière, mais qui est très importante puisque nous sommes dans le cœur battant de Fierté Montréal, si je comprends bien.
Absolument, oui.
Et nous avons tous été très, très forts ici autour de la table à démontrer notre affection pour un produit télévisuel populaire qui parle de drag queen. Évidemment, vous dites, OK, bon, c'est tous des fans de Drag Race, de quoi qu'on va parler? On va parler de drag. Pourquoi qu'on va parler de drag? Puis c'est encore dans mes introductions. C'est très intéressant comment la culture pop, à mon avis, est un domaine extrêmement intéressant. Sinon, on n'animerait pas une émission là-dessus. Mais c'est aussi un des domaines qui est le plus intéressant à observer dans ses avancées par rapport au genre, puis par rapport à toutes ces questions et ces réponses qui sont en train de se forger sur une identité genrée humaine. Je peux pas expliquer à quel point est-ce que je suis content quand je vois des trucs comme Steven Universe qui réussissent à problématiser et même à déproblématiser des affaires. Je peux pas non plus correctement exprimer mon appréciation pour toutes les personnes que j'ai vues dans des places à déjeuner avec des t-shirts de personnalités de Drag Race, l'amour que j'ai vu, ben, le plaisir que j'ai vécu la première fois que j'ai vu le t-shirt dans un t-shirt de Drag Race dans un Hot Topic, c'est des trucs qui me remplissent de joie. Au-delà d'une reconnaissance de fandom, au-delà de l'appréciation pour l'objet lui-même, ce que je réalise, c'est que une fois de temps en temps, quand on étudie la culture pop, on est tout aussi en train d'observer du progressisme en marche. C'est très, très, très important. Puis c'est pour ça qu'à part ça, parfois, on a plusieurs objets qu'on veut aborder, mais on en aborde un en particulier parce qu'on se rend compte que chez lui, il y a des thèmes ou il y a des façons d'aborder des problématiques qui nous tiennent à cœur qui sont extrêmement progressistes. Et dans le drag et dans Drag Race, je ne vois que ça. Je trouve que c'est un objet et une pratique extraordinaire qui nous permet à la fois de questionner, mais aussi d'embarquer dans cette grande vague progressiste, parce que le progrès, c'est quelque chose qui avance, et la culture pop permet une propulsion augmentée de cette vague-là. C'était mon introduction sur pourquoi est-ce qu'on étudie la culture populaire et pourquoi on étudie la pratique du drag. Aujourd'hui, autour de la table, je veux tous vous remercier énormément d'être là. Je veux tous vous remercier. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Sandrine Galland, qui est chercheure doctorale à l'UQAM et fan de Drag Race.
Oui, ça a été un amour fulgurant.
Roxane, que j'appelle toujours Janeway parce que c'est ton avatar, mais qui n'est pas ton vrai nom, mais ton avatar est plus fort que tous.
Absolument.
Cherchante en études vidéoludiques à l'UDM.
Oui.
Et fan de Drag Race.
Et fan de Drag Race.
Megan Bédard, chercheure au doctorat à en devenir, doctorante qui s'en vient
bientôt, dans quelques semaines.
T'es sûr?
Moi, j'allais vraiment dire ça! T'es convaincue, toi?
Oui, moi, je suis convaincue. C'est ma passion, l'université. C'est vraiment une drôle de passion, mais autant que les drags.
Conséquemment, fan de Drag Race aussi. Rachel Hippolyte, allô? Professeur.
Oui, effectivement.
Et fan de Drag Race.
Oui.
C'est ça. Et Maud Neuve-Villeneuve, auteur, éditrice, professeur.
Aussi.
Et fan de Drag Race.
Oui, nouvellement fan de Drag Race, grâce à l'incroyable stagiaire que nous avons chez ta mère, ma maison d'édition, Jeanne Simoneau, je la salue.
Oh wow! Oh, c'est le fun ça. Ok, donc on a peut-être même une septième personne autour de la table avec nous autres, une personne qui a inspiré au loin. On a séparé l'émission en deux sections, donc vous allez voir un peu comment que la structure va y aller. Sandrine, tu étais l'instigatrice de cette émission. Tu as proposé le thème et je te remercie du fond du cœur de l'avoir fait. Mais ouais, il y avait une partie, une section que tu voulais plus particulièrement aborder.
Oui, ben, disons que j'ai proposé la drague parce que voilà, j'y suis arrivée un peu pour adoucir ma rédaction de thèse. Donc j'écris et ensuite j'écoute un petit épisode. Mais j'étudie en études féministes, on pourrait dire. Donc je travaille. Et puis, c'est toujours été un peu tendu entre drag queen et féministe, mettons ça en grands guillemets, là, féministe, parce que ça n'a pas toujours fait deux bons ménages, parce qu'il y a certaines lectures du drag qui ne sont pas toujours complètes ou nuancées, si on les prend juste comme ça, selon moi, qui vont comprendre la drag comme une forme d'appropriation de la féminité. Donc, une appropriation du genre, littéralement, un peu, on pourrait le penser ou le problématiser, un peu à l'image de l'appropriation culturelle, du blackface, etc. Donc, on performe la femme. Donc, on a vraiment des hommes qui seraient là pour performer, pour rire de la féminité ou même lui rendre hommage. Alors, on n'est pas tout le temps dans la comédie, on peut être aussi dans l'hommage de la féminité. Bon, selon une telle lecture, on est d'accord que le drag ne serait qu'une représentation d'aspects assez stéréotypés de la féminité, donc une vision édulcorée. Et on le reproche d'ailleurs, et on en a parlé un peu off radio tout à l'heure, de faire la même chose avec les minorités ethniques, hein, d'être un peu raciste dans leur représentation de certaines minorités ethniques. Les dragues elles-mêmes, je veux dire. Donc, ça, c'est la première critique qu'on a du drag de la part de femmes ou de féministes, c'est que c'est un peu misogyne par moment. Je comprends d'où viennent ces critiques, je les partage même à certains moments, et malgré mon amour pour les clubs de drag, oui, parce qu'il faut le dire, je crois, je fais une petite parenthèse, la drag, c'est surtout hors RuPaul que ça se passe, c'est dans les communautés, dans les bars, et c'est une des critiques qu'on a fait à RuPaul Drag Race, c'est que ça a un peu sorti le drag queen des bars pour en faire quelque chose de mainstream, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est que les gens retournent vers leur club, retournent vers leur bar pour voir leur drag queen local. Je referme ma parenthèse ici. Mais c'est ça, c'est que au-delà de ça, je pense que je suis aussi inconfortable que toutes vous à la table probablement quand je suis dans un bar un soir et que j'entends toutes ces drags se traiter de bitch, de slut, de hoe, de faire une blague sur l'odeur d'un vagin de femme ou toute autre blague sur une caractéristique féminine dépréciée. Donc là est le malaise. Et je dirais que je vis mon amour du drag queen ou du drag queenisme. Est-ce qu'on a un mot pour ça? Non?
Du draguisme.
Draguisme. De la drague, disons. Je vis mon amour de la drague un peu comme mon amour du reggaeton. C'est-à-dire, avec culpabilité. Du drague, hein?
Oui, parce que de la drague, c'est autre chose.
Ah oui, ça a comme une référence.
C'est pour ça que j'ai fait comme non, ça peut pas fonctionner.
Non, ça, j'ai aucune culpabilité par rapport à la drague. Non, non.
C'est bien ce que je me dis.
Mais bon, si on creuse un peu plus, et RuPaul nous permet ça, comme Jean-Michel en a parlé, on se rend compte qu'il y a peut-être, c'est là qu'est l'espoir, c'est que la drague, le drague, peut être autre chose qu'une performativité du féminin. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que le drague, c'est profondément politique. Hein. On aurait des exemples à donner, là, par exemple, RuPaul, je pense qu'il était à la marche de Washington en 1993.
Ouais. Il y a eu plusieurs, j'ai pas les noms, là, je pourrais essayer de les retrouver, mais il y a eu plusieurs manifestations de drag queen aussi
elle-même.
Au cours du 20e siècle. Il y en avait dans les années 60 à San Francisco.
Dans les émeutes de Stonewall, ouais, il y avait des drag queens, etc. Voilà. Donc, un peu à l'image du féministe, hein, faut pas oublier que le féministe, lui aussi, a grandi, il a corrigé ses faux pas. Hein. C'était pas blanc comme neige, le féministe, surtout pas à l'époque des suffragettes, on est d'accord là-dessus.
Donc, je suis très blanc.
C'est vrai, la question était un peu voulue ici. C'était blanc comme
ça. Je me demandais.
Je pense que c'est encore une question même dans le mouvement drag aujourd'hui.
Exact, c'est là qu'on y va. Ouais.
On va peut-être en reparler, mais je vais te laisser continuer.
Ben non, mais c'est ça, on va vers ça. Puis je ne veux pas trop en parler parce qu'on dirait que les deux mouvements vivent un peu du parallèle entre le féminisme et le drag queen parce que tu vas en parler, je crois. On a une tendance un peu de mainstream et de marketisation du drag queen qui se passe. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse dans le mouvement féministe, donc j'ai hâte de t'entendre sur ce que tu vas dire là-dessus par rapport aux drag queens. Donc, on est d'accord pour dire que là, c'est mainstream. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Moi, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec le drag. Est-ce que ça vous tente?
Oui.
Yes. Ben, c'est pas du drag queen, c'est du drag king, en fait. C'est dans la saison 1 de The L Word. Je vous amène ailleurs, là, suivez-moi. Mais dans la saison 1 de The L Word, on a le personnage de Ivan, qui est un personnage un peu gender fluid. Là, c'est pas un trans. En tout cas, c'est pas tellement. Je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Ivan, là, mais...
Ben, c'est ça. Oui, non, ben, c'est ça, j'allais dire, c'est un gender queer, là. Je pense que c'est la meilleure façon de décrire Ivan, c'est que c'est un gender queer.
Voilà. Puis là, il vit une espèce de relation platonique avec Kit, la sœur du personnage principal, Beth, qui, elle, est présentée comme unilatéralement hétérosexuelle.
Absolument.
Et là, Kit est un peu troublée par cette femme en homme qui la charme et qui est très, très, très bon pour elle. Et il y a la 514 qui est dans un parking souterrain et Ivan va mettre tout en œuvre pour séduire Kit. Je ne sais pas si vous venez de cette scène fantastique. Pour moi, c'est une de mes scènes préférées de toutes les séries du monde, où Ivan va chanter, ou faire du lip-sync plutôt, sur I'm Your Man de Cohen.
Ah, oh, je m'en souviens dans très bien. C'est magnifique.
Voilà. Et
bon
là, on voit le visage là, de Kit qui est troublé puis qui ne sait plus qu'est-ce qu'elle va se faire à se tous, même le visage et tout. Alors que moi, Sandrine, 18 ans, je commence à trouver que ma sexualité à moi est plus à géométrie variable que je pensais devant cette scène. Et là, je ressens le même trouble, un ou deux ans plus tard, au Sky, en train de voir une drag queen qui me chante direct dans les yeux « I Kissed a Girl » de Katy Perry. Puis là, mon Dieu, que je suis un peu en train de tomber en amour avec elle. Puis là, parallèlement à tout ça, là, je rentre dans le personnel, mais c'est parce que ça fait partie de tout ça, le drag. Moi, je tombe amoureuse d'une fille en oubliant qu'elle est une fille. Ça a zéro importance. Et là, tout ça process. Et là, je crois que c'est tout ce détour pour dire que c'est là que se situe la legacy la plus importante pour moi du drag queen. C'est que il peut devenir politique, on est d'accord, mais surtout éminemment queer. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, vers le drag queen, parce que l'autre jour, et je vais conclure avec ça, en disant à un ami gay qui est très fan de drag queen, d'ailleurs, qui aurait dû venir en parler aujourd'hui, mais qui travaille... je lui ai dit, hey, moi, dans une autre vie, là, je pense que j'aimerais ça être une drag queen. Je lui ai dit, mais je suis qui, moi, pour parler? Là? Je suis une jeune femme blanche, queer peut-être, là, mais je pourrais pas être une drag queen. Là, ce serait un peu de l'appropriation. Puis il m'a répondu, ben non, c'est ça, le drag. C'est un espace ouvert pour tous, pour que tout le monde le modifie, le transgresse, le performe comme il souhaite. Il dit, moi, je vois aucun problème. Est-ce que tu vois une drag queen? Je vois pas le problème.
En fait, il y a un terme pour ça, ça s'appelle une faux queen.
Oui, ben, on pourrait en parler, mais ça, c'est le terme controversé.
Ouais, c'est
là.
Ça.
Ouais, certains nous appellent les bio queens et tout ça, mais et là, j'imagine, on pourrait aller là-dedans parce qu'effectivement, ça, c'est l'utopie, qu'on aimerait que le drag soit. Mais dans les faits, c'est un milieu très dur et peu tolérant.
très, très peu tolérant, très toxique aussi. Et même, puis on a un peu abordé ça tantôt, on parlait d'à quel point le féminisme était très blanc. Drag Race reste encore très blanc, même si RuPaul...
Oui, c'est ce que j'allais dire. RuPaul lui-même est une personne racisée, mais le drag, c'est une des critiques d'ailleurs qui avait été ressortie par des magazines et des sites blogs qui sont afro-américains, que justement, Drag Race... Alors que ça devrait être RuPaul Drag Race, alors que ça devrait être justement un espace où les communautés racisées pourraient être accueillies, reste très très blanc. On peut faire aussi la même critique que par rapport partout avec le drag avec America's Next Top Model, qui sont aussi...
Ben, qui sont d'ailleurs construits un peu en miroir, là, les
tout
deux.
Fait,
oui, c'est ça. Ça a beaucoup de rapport avec... Moi, je trouve que, pour moi, America's Next Top Model puis Drag Race est comment t'appelles ça? Un truc... guilty pleasure. C'est comme un guilty pleasure qui est, pour moi, très similaire.
je vis exactement les mêmes émotions en écoutant les deux émissions.
Oui,
j'en sens aucune culpabilité à l'écouter. C'est
vraiment la première
ça a passé. C'est
juste un pleasure. Mais même là, je veux dire, on connaît toute l'existence du Tumblr, Everything is Problematic. Il y a une force à développer, à être capable d'identifier les failles dans des trucs.
Absolument.
Ça aussi, c'est très éducatif de faire comme, OK, ben ça, il y aurait ça, ça, il y a ça. Donc, quand on arrive à réparer quelques lacunes ou replacer quelques lorgnettes par rapport, de quelques angles morts, je dirais, par rapport à des trucs qui ont été oubliés, ben, on pense, et là, je dis, wow, OK, on pense la chose. À la fois penser et mettre un pansement.
Mais il y a aussi, le fait que, RuPaul, ça a rendu le drag mainstream, mais le fait que ce soit mainstream, c'est un peu comme un phare pour les communautés plus underground. Ben oui. Et RuPaul Drag Race a vraiment progressé dans son acceptation des communautés depuis le début.
C'est très juste.
Incroyable.
Ben, on peut prendre l'exemple, il l'aborde de front dans le show, alors on peut en parler, des femmes trans.
Oui.
Ils se sont fait au début, jusqu'au milieu de la sixième saison, quand RuPaul arrive au début. En tout cas, ils ont une petite vidéo, puis ils disent « You got shemale
».
Et ils se sont fait rapprocher de pas utiliser le mot « shemale ». Et ils ont adapté en plein milieu de la saison 6, ça disparaît. Puis là, il dit sa phrase que je ne prononcerai pas parce que je vais mourir.
Oh, that one got she already had hers.
She already had hers,
qui est un vieux callback d'un diner des années 80. J'étais totalement obsédé avec ce cri-là.
Je l'ai dit dans ma douche des fois, mais ça sort pas très bien.
Je pense que ça sent bien, on a l'enregistrement.
Puis en fait, ce que je trouve super intéressant en parallèle avec justement les femmes trans, c'est que pendant longtemps, les participants de Drag Race qui ont fait des coming out comme femmes trans ont été un petit peu rejetés du milieu de Drag Race. Je pense à Carmen Carrera, je pense spécifiquement à Carmen Carrera qui n'est plus du tout dans le milieu Drag Race.
Puis ils faisaient leur après, hein, l'émission.
Ah, mais il y en a une qui a fait son coming out pendant l'émission, je me souviens plus de son nom.
Plus récemment, dans la dernière saison, saison 9, il y a Peppermint qui a fait son coming out.
Ah oui, OK.
Puis
je l'avais dans les plus vieilles saisons, je pense que c'était en 2010-2011.
C'est Monica Beverly Hills qui a pleuré même sur scène.
Ouais,
et qui s'est fait éliminer. Ouais.
Alors que Peppermint s'est rendue à la finale. Ce que j'ai trouvé super intéressant pendant le coming out de Peppermint, c'est la manière dont elle parlait. Et c'est là que je reviens à l'idée que la communauté de drag est un super endroit d'expression utopique, comme tu disais, mais aussi un endroit super toxique. C'est que Peppermint disait à quel point, quand elle parler à des gens proches d'elle avec qui elle travaillait dans la communauté de drag de New York, elle se faisait dire, ben, soit tu fais ta transition et t'arrêtes d'être une drague, soit tu continues d'être une drague puis tu t'es. Et donc, il y a toujours eu cette idée-là que, ben, si tu veux faire ta transition, t'arrêtes de faire ce que t'aimes. Puis j'ai toujours trouvé ça super toxique comme milieu, de ne pas être capable de séparer, t'sais.
Mais ça revient à l'idée de, si tu es une femme, tu ne peux pas faire du drag, là.
Ouais.
Tu peux faire du drag queen, tu peux faire du drag king, mais pas du drag queen. Là.
Exactement. Ouais. Alors qu'on s'entend que, on va se le dire, j'imagine qu'on est tous d'accord avec ça, mais faire du drag, c'est une performance. Voilà. Tu disais tantôt, c'est du théâtre.
C'est du théâtre, oui. Ouais. Tu parlais de ta découverte, avec le drag. Quand j'ai découvert le drag, en fait, j'avais vu des drags de chez Mado, parce que Tu sais, j'étais amie avec des gens qui étaient des drags chez Tato. Puis je les ai vus en, et ça fait beaucoup rire Roxane quand je dis ça, en civil, donc.
Mais on n'a pas de mot en français, on en a-tu un? Out of drag.
Ouais, c'est
on,
ça.
J'aime ça, ça, adopter.
En civil. En civil. Donc, dans leur personne de gars, là, tu sais, de gars cis et homosexuel. Ouais. Et,
égal à son permis de conduire.
C'est voilà. Ça. Merci.
Ça
ouais. Voilà. Que, tu sais, je les ai rencontrés avant de les voir en performance et que c'est à ce moment-là que j'ai fait... Et tout le préjugé que j'avais sur les drag queens s'est complètement évanoui à partir de là parce que j'ai fait « Ok, c'est du théâtre, c'est de la performance. Mm-hmm. » Et tu sais, tu parlais du fait qu'on peut critiquer l'objet du drag. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, c'est facilement critiquable parce que on peut critiquer un objet. C'est pas une attaque ad nominem de critiquer le drag queen, c'est critiquer une culture et d'analyser une culture comme on le fait avec la culture populaire, tu sais. Donc, c'est pas une attaque à la chose de le faire. T'sais.
Non, mais encore, ça devient une question à creuser qui est vraiment intéressante. Mm-hmm. Je sais que, tu sais, comme quand Courtney Act est arrivé, tu sais, Courtney Act est très, pour prendre les termes propres à cette communauté-là, est très fichy.
Oui.
C'est un homme qui ressemble déjà élémentairement beaucoup à une femme. De même avec...
Son drag est très toned down aussi. Là. C'est comme le maquillage est très...
C'est naturel.
C'est ça. Elle pas, est une femme. Ouais.
Parce qu'il est déjà très belle.
Oui.
Si on peut le dire de cette manière-là.
Oui, oui.
Va de même aussi avec les performers portoricaines. Qui ont les traits plus fins, qui ont déjà une
corpulence plus... C'est quoi celle qui était superbe là, dans la saison? Oui, bon, je ne retrouverai pas son nom.
C'est ça, mais sont extraordinairement... ils sont extraordinairement belles. Mm-hmm. J'aime ça jouer avec ça. On va revenir à ça. Les attaques qui sont faites sur ces performeuses-là proviennent du fait qu'ils ont moins de travail à mettre dans leur drag puisqu'ils viennent de facto un peu déjà enrobés d'une féminitude. Mm-hmm. Fait que je comprends cette question-là d'une fois que tu as fait la transition, le jeu n'est plus le même. Les règles ne sont plus le même pour toi dans
it's
ce jeu-là.
It's not fair.
Ben, it's not...
Genre. Mais en même temps, il y a plusieurs façons d'être une drag queen.
Ben voilà,
t'as la comedy queen, t'as les beauty queens, ouais. T'as les pageant queens.
Mais tu vois, ce qui est intéressant, puis c'est un peu ce dont je voulais parler plus tard, mais je pense qu'on peut quand même en parler maintenant, cette espèce de distinction-là a tendance de plus en plus à disparaître dans la mesure où, si tu regardes, puis là, je parle uniquement de Drag Race en ce moment, si tu regardes les premières saisons, t'as vraiment d'un côté les comedy queens, puis t'as de l'autre côté les pageant queens.
Ils montent là-dessus.
Il y a une compétition, puis les deux se bitchent un peu aussi. Là.
Exactement.
Qu'elle est forte, là, en plus, les compétitions. Il y a des points qui se sont dit là-dessus qui sont épouvantables.
Ça n'a aucun sens. Et plus récemment, puis là, on parle de la saison 9 qui vient tout juste de terminer, la distinction est beaucoup plus flou, je dirais, dans la mesure où, étant donné que la compétition maintenant est tellement grande dans Drag Race, tu dois être capable de tout faire parfaitement bien pour être capable de gagner cette compétition-là. Puis il y a encore cette espèce de « Ah oui, il y en a qui font un peu plus de comédie, qui font un peu plus de pageant, mais il faut absolument être capable de tout faire pour être capable de se rendre à la finale. » Et donc, ces distinctions-là ont tendance à doucement s'atténuer, je pense. En tout cas, au sein de la communauté de Drag Race en particulier, là, je suis pas une spécialiste non plus des communautés de drag en général partout dans le monde, mais pour moi, c'est quand même de bon augure qu'on efface justement cette espèce de compétition-là inter-drag lui-même.
Genre, ouais. Genre dans le sens de genre de roman. Là,
oui, exactement.
Des types.
C'est voilà.
Ouais. J'ai pas l'impression qu'elle va disparaître d'ici peu.
J'ai pas l'impression qu'elle va complètement disparaître. Je pense pas que c'est possible, c'est plus, en fait.
Non, parce que ça définit les rivalités.
Ouais. Ouais. C'était plus facile de passer d'une à l'autre maintenant aussi, là. C'est, les frontières sont moins nettes, dirait-on.
Puis en même temps, c'est agréable que de voir au sein d'une pratique, il y a ces thèmes, ou je sais pas c'est quoi le terme.
Ces
types, merci beaucoup Rachel pour ça. Ce n'est pas genre d'être confiné à une... Parce que tu fais du drag, tu fais ça. Ouais. Je pense souvent aussi à... souvent dans Drag Race, quand on a des... Des vétérans.
Oui, j'allais le dire.
Excuse-moi,
oui.
Des vétérans.
Des plus âgés.
Je suis plus capable de.
Des vétéranes.
Les vétérans apparaissent avec un type de drag qui est ultra expérimental, souvent inspiré des Club Guilds, souvent inspiré de Factory, et ainsi de suite. Et toute la jeunesse et un peu déconnectés de l'histoire et finissent par comme regarder ces personnes-là qui en font depuis une trentaine d'années puis qui se mettent une botte chromée sur la tête à l'envers et font mais c'est quoi c'est ça mais c'est quoi ça en quelque sorte il y a une brèche qui se fait mais il y a aussi comme une tradition qui se poursuit avec ces vétérans-là de performance art
absolument
qui n'est
ouais, mais
qui existe
aussi,
encore dans
c'est
le drag
mais aussi avec les plus jeunes drags qui sont plus
génération Instagram
ouais génération Instagram ouais. Internet fashion aussi là, ouais. Donc dans la haute couture et compagnie là, si on pense à Raja ou j'ai fini la saison 7 hier avec Violet Chotsky qui gagne la saison 7
mais Raja ouais. Est quand même une vieille de la vieille
c'est une vieille de la vieille mais son drag est très fashion très contemporain
là. Alors que si tu regardes par exemple dans la dernière saison de Drag Race ou même on pourrait parler de Chad Michaels par exemple qui lui est connu pour faire Cher constamment et qui sait pas mal, en tout cas c'est une opinion personnelle, mais qui fait très 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 bien Cher, mais c'est à peu près ça. On peut regarder la dernière saison, puis regarder, on avait des gens comme Charlie Hyde, qui a, je pense, 50 ans, qui côtoyait des gens comme Pheromone, qui fait du drag depuis, genre, un an.
20 minutes.
Ouais, à peu près 20 minutes. C'est vraiment deux générations complètement différentes de quand le drag était méga underground et méga controversé et de maintenant quand tu peux être une star du drag sur Instagram avant même de te rendre à Drag Race je pense que c'est vraiment deux perspectives qui clashent plus maintenant que le comedy versus
oui c'est vrai
pageant.
Je suis d'accord puis je trouve que bon comment l'épisode est construit là pour ceux qui ont jamais écouté RuPaul, on commence par un mini challenge après on annonce un main challenge ils vont se préparer et tout et avant la soirée de défiler avec le main challenge donc le challenge principal il y a souvent un petit moment de confession et de partage d'historique et tout
pendant qu'on met notre make-up
oui voilà. C'est ça devant le miroir oui.
Voilà mais qui est toujours bien pas trop je trouve comparé à d'autres
c'est mes segments préférés
moi aussi c'est
des témoignages vraiment très touchants voilà aussi.
Et là on ressent aussi les différences de génération souvent entre les histoires de coming out, les histoires de rejet de famille. Puis des fois aussi, il y a des rapprochements qui se font entre plus âgés ou en tout cas. Ouais, j'aime bien RuPaul.
C'est vraiment le fun. Puis moi, je l'avais remarqué beaucoup dans la saison 7, je crois, où il y a Tempest du jour Mrs. Kasha Davis, qui sont des vieilles de la vieille et qui sont naturellement, je pense, allées une vers l'autre. Mais c'est ça, tu sais, ils me parlaient que bon, on parle plus à leur famille du tout. C'est un peu difficile. Puis là, t'as des gens comme Naomi Smalls dans la saison d'après, que sa mère vient à ses shows.
C'est sa meilleure amie.
C'est sa meilleure amie, puis ce genre de trucs-là. Donc, on voit... en tout cas, je pense que j'ai vu un peu d'envie dans les yeux des plus âgés, peut-être, mais aussi beaucoup de respect dans les yeux des plus jeunes, de reconnaître que c'est un challenge que peut-être elles n'ont pas eu à vivre non plus. Pour vrai, c'est mes moments préférés, là, de voir les...
Mais il y a aussi le moment, parce que ça parle beaucoup d'homosexualité masculine, puis je pense que c'est pendant la saison 5, il y a des vétérans...
Ah, ce moment de télé!
Qui sont venus, parce qu'il y a tout le temps un épisode où il faut qu'ils fassent un makeover d'hommes qui sont habituellement pas des drag queens. Ouais. Donc, s'il y a des conversations dans cet épisode-là, moi, ça m'a fait pleurer. Là. Fait, c'est ça, c'est des vétérans de l'armée américaine qui sont homosexuels, donc ils racontent leur témoignage dans l'armée ou qu'est-ce qui s'est passé aussi.
C'est vraiment touchant.
Mais c'est un des aspects que je trouve intéressant dans cette émission-là, de ces segments-là, c'est justement le côté de transmission. Le dialogue, justement, de génération là-dedans est super intéressant. Puis c'est une des affaires qui, à mon avis, le distingue des autres shows de télé-réalité, tu sais, c'est que il y a pas seulement que la compétition, il y a aussi un aspect communautaire qui est super important et qui est vraiment valorisé dans ces segments-là, tu sais.
Oui. Mais il dit d'ailleurs tout le temps, we as gay people get to choose our family. Ou
absolument.
Ouais. Je vais arrêter de tourner la tête pour te regarder, Jean-Michel.
Non, mais le mot transmission est extrêmement important parce que on a avec Drag Race une la possibilité d'être capable de voir et d'observer ce domaine-là. Chose qui est, pour la majorité de nous, un peu, c'est des portes qui sont closes. C'est très intéressant parce que ces épisodes-là que tu soulignes, Megan, sont vraiment les épisodes qui font de manière très métatextuelle ce que la série fait aussi.
Oui, tout à fait.
Dans la dernière saison, on ouvre la possibilité de faire du drag aux gens de l'équipe technique de l'émission.
Ah oui,
c'est carrément, ils prennent le caméraman, le régisseur de plateau, le script, ainsi de suite, puis ils disent, ben là, c'est vous autres qui êtes les objets de ce refaçonnage-là. Ouais. C'est exactement ce qui est en train de se faire auprès de l'auditeur lorsqu'on est en train de l'écouter. On peut, et si vous le faites, c'est parfait, mettre une rhum quand on écoute un épisode.
Mais pour vrai, là,
en tant qu'homme, là, tu sais, je veux dire.
Quand je suis vraiment dans mes binge-watching de Drag Race, je mets ma perruque préférée, puis mes talons hauts, puis je m'assois sur mon divan.
Ouais, mais moi, j'en ai une, tu sais, je l'ai montré à Roxane tantôt, puis j'ai pas eu le temps de la mettre, parce qu'en tout cas, je faisais un autre enregistrement avant celui-ci, mais j'ai une merveilleuse perruque blonde dans mon sac, en me disant que j'allais la porter pour le
on aurait dit
c'est créé avant. Tellement! Il y a de ça, moi, je marche dans mes couloirs, comme si j'avais un podium.
Ah mon dieu, là, le catwalk dans sais. Ma vie. Là, maintenant, je me mets des chansons, souvent des chansons de RuPaul, et marche, là.
Comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais je pense pas que je suis très bonne, hein, mais...
Non, pis c'est pas grave.
On s'en fout, c'est ça.
Moi, c'est vraiment c'est des phrases. Bon, on le sait que les drag queens ont un sens extrêmement développé du wit. Ouais. Mm-hmm. Ils réussissent à circonscrire des phrases
qui
deviennent...
Because reading is what? Fundamental.
Mais ces phrases-là deviennent très... Il y a des phrases qui circoncisent non pas des façons d'être, mais des façons de vouloir être dans la vie, qui pour moi deviennent des formes de mantra.
Oui.
C'est très intéressant parce que, comme je vous dis, je n'ai pas accès à ce monde-là normalement, mais je ne peux plus retourner sur mon existence avant la connaissance de l'expression purse first. Purse first, pour moi, c'est très important. Je ne fais aucune communication universitaire si ce n'est purse first.
Sérieux. Mon frère, qui est un charpentier très, très bro masculin, et je t'aime, Frédéric, comprenait pas vraiment mon obsession du drag avant que je lui fasse écouter justement la saison 8 qui est sur Netflix avec Bob the Drag Queen.
Ouais.
Et mon frère tripe sur Purse First.
Absolument.
Me chante Purse First dans la vie. A le goût d'aller voir justement le show de drag qui est le 17.
Demain.
Demain, mon Dieu, Seigneur, c'est déjà demain.
Au Parc des Faubourgs.
Au Parc des Faubourgs. C'est quelque chose qui, justement, parce que, comme tu disais tantôt, en regardant ces gens-là performer, Purse First, qui est absolument hilarant, en voyant ces moments touchants-là, on dirait qu'on voit l'humanité et on voit la performance dans un même épisode à chaque fois. Puis c'est venu toucher. Je dis toujours aux gens qui comprennent pas c'est quoi le drag ou qui comprennent pas mon obsession avec le drag, qui ont juste à écouter un épisode de Drag Race, puis ils vont comprendre. Puis c'est aussi simple que ça, je pense, de voir justement cette cohabitation-là entre l'humanité, la performance, l'humour. Je trouve ça fascinant.
On en parlait aussi avant d'arriver en onde parce qu'on est en train de se demander si on avait des drags préférés dans RuPaul's Drag Race. Moi, j'ai dit Bianca de Rio, évidemment. Puis, genre, c'est toi, Sandrine, qui disait qu'elle gardait un peu sa personnalité un peu bitchy à l'extérieur du show, mais on dirait qu'il restait juste ça. Mais c'est parce que, oui, quand on va voir
c'était
des
pas
shows,
mon opinion, hein, je veux le dire. C'était quelqu'un d'autre que moi, j'adore Bianca.
Non, j'adore Bianca.
Bianca est fondamentalement une bonne personne.
Voir des shows, quand on va voir des performances, on n'a pas tout cet envers du décor-là que RuPaul's Drag Race nous offre, puis on n'a pas toute la réflexion derrière, parce que chacun fait du drag pour des raisons différentes.
Mm-hmm. Voilà.
Chacun a sa vie, chacun son historique. Mm-hmm. Puis quand on voit cette émission-là, qui est devenue très, très, très populaire, mais on dirait qu'on a accès à la version sensible d'une performance qui est autrement très... polished.
Ouais.
Je vais te poser la question alors, si tu me le permets. Est-ce que votre drag queen préférée est aussi un avatar inspirationnel pour vous? Est-ce que c'est la personne... Parce que déjà que une personnalité
Bianca,
de drag...
Oui, c'est sûr. Ouais.
C'est ça? C'est-tu correct pour tout le monde autour de la table? Est-ce que votre drag queen préférée, c'est qui vous voudriez être dans la vie?
Ben oui et non, mais oui. Parce que j'en ai deux à ex-equo, là, OK?
OK.
Oui, ça dépend pour quelle raison c'est ta préférée, là. Ouais.
Exactement.
Non, mais je trouve ça quand même intéressant parce que, bon, étant un fan de lutte professionnelle, puis j'ai beaucoup observé en observatoire de la culture populaire, c'est la lutte professionnelle puis le drag,
c'est la même chose.
Même affaire.
C'est pareil.
Juste plus de chansons dans le drag, c'est tout.
Il y a plus de chansons.
Et de paillettes.
Ouais.
Et de vogue. Au moment où j'ai dit ça, j'ai fait peut-être que finalement.
Il y a beaucoup de brillants dans la lutte aussi.
Non, mais c'est exactement, j'ai dit ça, puis en tout cas.
Mais... Ah.
de highlighter, en tout cas.
Non,
que... c'est ça la fin. Non, je pense que c'est vraiment à quantité égale. Puis là, j'allais dire, il y en a un qui se bat plus que l'autre. Puis non plus.
C'est oh juste... boy!
C'est ça, comment que le combat prend forme.
On a vu avec Mimi I'm First que le drag peut être un sport de contact.
Mais cette question-là, je la pose souvent dans la communauté de lutte. Est-ce que ton lutteur préféré, c'est la personne que tu voudrais être dans la vie? Puis c'est essentiellement, c'est souvent ou majoritairement un oui retentissant.
Ouais.
Fait que là, il y avait comme Rachel puis Maud qui n'avait pas de l'air 100% certaine de ce que je disais.
Ben, non, mais en fait, c'est juste que je pense que... Il est trop tôt pour que j'aille une drague préférée.
Okay, ah oui, savoure.
Ouais, c'est ça. J'ai encore beaucoup de genre, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'aime beaucoup Bob de Drag Queen.
Ah oui.
Je dois Bob aller. Est très cool.
Je suis super fan de Bob de Drag Queen.
C'est ma drague préférée.
Bob est complet.
Show. Oui. Ah, c'est fait que là, j'étais en train de me demander, tu sais, est-ce que dans le fond, cette inspiration-là.
Dans l'émission, il est pas. Je dirais que ses looks sont vraiment pas aussi.
Ah oui, non, c'est vrai. De ce côté-là, t'as raison.
Il y a beaucoup d'autres gens. Il joue beaucoup sur l'espèce de ratchet drag qui, moi, personnellement, je trouve qui est souvent attribué aux personnes racisées sur l'émission.
Oui, absolument.
Le ratchet, comme wannabe ghetto. Ouais. Je trouve ça un petit peu dérangeant personnellement. Mais Bob the Drag Queen, pour moi, puis encore une fois, c'est ce que j'allais parler un petit peu tantôt, fait partie des dragues que j'aime parce que c'est des personnes qui sont engagées dans leur communauté et qui font du drag, justement... Une lutte militante, hein, dans le fond.
Ouais.
On a vu Bob the Drag Queen mentionnait pendant l'émission qu'il, lui, avait déjà été arrêté pendant des manifestations sur, je pense que c'était Black Lives Matter.
Absolument.
Il était en tête de file, il s'est fait arrêter, toujours dans sa communauté, redonné à la communauté, si je me trompe pas, avec le prix qu'il a gagné à Drag Race. Mm-hmm. Même chose pour...
Dans un organisme important de la communauté noire, en tout cas.
Je pense qu'il vient de c'est de New York, là, mais je sais pas c'est de quel
dans l'État de New York, j'ai moi aussi j'ai un blanc.
Mais oui, et il y a aussi la toute dernière gagnante, Sasha Velour, qui est devenue officiellement ma drague préférée, ex aequo avec Katia, mais pas pour les mêmes raisons.
Non, Katia, c'est pas
Katia,
pour...
c'est juste la folie extrême. Sasha, qui en fait... performe du drag qui est d'une manière totalement différente. Elle fait des performances un peu étranges avec des projections. Elle essaie de ramener la dimension artistique au cœur de son approche. Puis Sasha travaille beaucoup dans la communauté et dans le but aussi de faire progresser la cause LGBTQ+, AI2+. Je me souviens jamais des lettres par cœur, là.
LGBTQIA2, oui.
Mais, ouais. Donc c'est ça, Sasha travaille beaucoup dans la communauté pour faire avancer la cause. Et dans Drag Race, elle parlait beaucoup du fait que pourquoi on met tant d'importance sur cette limite-là entre hommes et femmes?
Ben oui.
Pourquoi c'est si important? Puis le message que Sasha voulait envoyer, puis c'est pourquoi j'ai trouvé ça aussi formidable que Sasha gagne et pourquoi j'ai littéralement pleuré dans un bar en regardant la finale.
Cette finale.
Oh mon Dieu!
Oui.
Le reveal, s'il vous plaît, du lip-sync de Sasha est la plus belle chose au monde parce que pendant les lip-syncs, en passant, les lip-syncs, c'est les performances finales qui déterminent qui reste et qui part, et donc il y a toujours des petites surprises des fois qui se passent, et le gros tabou dans Drag Race c'est qu'il faut pas enlever sa perruque quand on fait notre performance.
Je pense qu'ils ont juste dit ça parce que tout le monde enlevait leur perruque jusqu'à la saison 4, là, c'est comme systématique, tout le monde enlevait sa perruque,
tout le monde enlevait sa perruque puis ses talons, c'est comme let's go.
mais disons-le, Sasha a fait toute la saison bald, chauve.
Oui.
Voilà.
Oui. Et ça, en passant, c'est en l'honneur de sa mère qui est décédée d'un cancer. Et donc, Sasha a comme adopté le bald queen en l'honneur de sa mère qui n'a jamais pu l'avoir performé. Donc, c'est super touchant. Mais ouais, le reveal de Sasha était tellement puissant. Et le message de Sasha était d'un petit peu redonner le pouvoir aux weird kids, les enfants bizarres qui sont toujours mis de côté dans la cour d'école. Puis de redonner justement le pouvoir à cet espace liminal-là entre le genre féminin et le genre masculin, d'essayer de
justement de redonner la puissance à ces gens-là. Puis moi, pour moi, c'est ça qui fait de Sacha une de mes préférées.
Moi aussi.
Honnêtement, ça a été, j'étais certaine qu'elle allait pas gagner. Ça a été vraiment un...
Moi aussi. Ben moi, c'est ma préférée, au-dessus de Bianca. Et je ne pensais pas qu'elle allait gagner non plus. C'est une finale crève-cœur parce que exceptionnellement, c'est une finale à quatre. Et là-dedans, il y a beaucoup d'affect parce qu'il y a Peppermint qui est trans. Donc, je savais plus, j'étais là, ouvert mon cœur, mais je pensais pas que Sacha allait l'emporter, non?
Ouais, ouais.
Mais d'ailleurs, j'ai comme geeké out, puis j'ai été voir les prochaines drag queens pressenties pour la saison 10. Il y a plein de vidéos YouTube, vous pouvez perdre des heures. Mm-hmm. Et c'est beaucoup plus diversifié en termes de genre, j'ai trouvé. Okay. Il y avait un peu de tout.
Chouette,
ça. Ouais, il y avait des femmes à barbe. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour vrai, mais je me suis dit peut-être que c'était la poussée Sacha.
Ben, il y a comme un changement aussi qui s'est fait suite à la réception du Emmy de RuPaul.
Ouais,
vois énormément par rapport à la perspective que RuPaul a sur sa propre émission, puis même sur le propre spectacle. De bon, évidemment, ça va avec. Là, tu reçois l'ultime récompense là, pour la télévision états-unienne. Et tout d'un coup, ben, le message politique devient important. Là, il y a quelqu'un qui nous écoute.
Devient
là,
central, même.
Exactement. Ouais. Devient comme, bon, évidemment, RuPaul's Drag Race est présenté sur, tout d'un coup...
VH1, maintenant.
C'est VH1. Initialement, c'était sur...
Logo TV.
Exactement, qui est, tu sais, un poste à vocation de programmation orienté vers la communauté LGBTQ. Donc, on parle aux gens qui ont ce poste-là. Maintenant, VH1, on parle à vraiment une plus grosse communauté, et là, le message politique devient plus fort, plus gros, plus important. Puis ça s'est fait... Oui, pardon.
C'est bien, parce qu'en fait, moi, en tant que néophyte, je me posais la question, tu sais, est-ce que le fait que le drag devienne plus mainstream, ça peut pas noyer sa valeur politique puis son message politique, tu sais? Est-ce que ça devient pas seulement juste un spectacle, puis est-ce que ça enlève pas quelque chose, tu sais? Fait que ce que tu dis, Jean-Michel, ça me rassure d'une certaine manière.
Ben, c'est parce que, tu sais, pour moi aussi, le drag, tu dis le drag devient un spectacle, mais pour moi, le drag est à la base.
Ben oui, mais je veux dire, ne devient qu'un spectacle. C'est ça que je veux dire, oui, ne devient qu'un spectacle. Comme vidé de tout ce qu'il pourrait y avoir d'autre.
Ouais, c'est ça, c'est un carnaval.
Oui, dans ce sens-là, je sais que c'est d'avoir ça, mais.
Mais le mainstream, c'est un couteau toujours à double tranchant. On peut pas s'en sortir, mais en même temps, ça donne tellement une grosse plateforme, c'est énorme, là, aujourd'hui, pour justement ce type de message-là.
Encore une fois, on a besoin des deux.
C'est ça. Si y a volontairement un message politique qui va être passé à travers RuPaul's Drag Race, ben, tant mieux.
Mais tu sais, il y a ce même débat-là aussi sur l'espèce de marchandisation, le fait de le rendre lisse. Ce n'est pas que relié au drag ou qu'à cette émission-là. Tu sais, la question du marché rose, justement, dans la communauté gay, le fait de monnayer, que ça devienne, que le quartier gay devienne un quartier touristique, que la fierté soit commanditée par TD, que...
C'est une tendance absolument généralisée.
Mais le fait que, justement, cette présence-là, c'est à double tranchant, tu sais, c'est bien que TD puis Desjardins fassent des publicités, mais en même temps, ça retire l'essence qui est quand même, pour plusieurs membres de la communauté LGBTQ, reste éminemment politique et subversive. Est-ce que à ce moment-là, dans cette marchandisation-là, d'être dans un plus gros poste, etc., est-ce que le côté subversif s'en va? On a vu que plusieurs que non, que ça peut être un outil, tu sais, comme dans le cas de Bob the Drag Queen, qui parle de Black Lives Matter à un grand auditoire à TV, quand même. Et c'est sûr, tu sais, il y a de parler d'un mouvement subversif, mais dans un cadre mainstream, tu sais.
Mais c'est intéressant que tu en parles parce que juste ce que je voulais mentionner peut-être un peu plus tard, c'était que des artistes comme Bob the Drag Queen, par exemple, sont en train justement de sortir en ce moment une ligne de sacoche.
Absolument!
Purse first! Il y a aussi...
Il y a le parfum!
Oui, un parfum. Willem qui est en train de sortir, il a sorti un livre et des parfums. Il y a Kimchi qui vend du make-up, il y a Courtney Act qui vend des perruques avec Wigs by Vanity. Là, je fais de la pub pour Wigs by Vanity.
Pluguez tout le monde.
Pluguez
tout le monde. C'est quelque chose qui, maintenant, justement, avec cette mainstreamisation du drag, c'est quelque chose qui est rendu possible. On vend tout le monde a des t-shirts de Trixie Mattel, tout le monde a des pins de Sacha Velour, parce que Sacha a vendu des pins à chaque semaine, selon les looks qu'elle portait dans la saison 9. Je sais pas à quel point, tu sais, en même temps, t'encourages des artistes qui maintenant peuvent vivre de leur art. Je pense qu'il y a des artistes qui sont même pas allés sur Drag Race. Je pense à Aquaria. Je sais pas si elle est pressentie pour la saison 10, mais d'après moi, tu sais, je veux dire, elle a
plus... De mémoire, je pourrais pas te dire.
Elle a plus de followers sur Instagram que des gens qui ont participé à Drag Race, par exemple, à la saison 3 ou 4.
Oui.
Tu sais, je me dis, il y a des gens maintenant qui peuvent d'un autre sens vivre de l'horreur. Donc, est-ce que la marchandisation est problématique ou non? Moi, c'est la question que je me pose. C'est à partir du moment où Bob the Drag Queen a redonné à la communauté, a donné une tribune à des mouvements subversifs comme Black Lives Matter, comme tu disais, là, maintenant, se lance dans une ligne de sacoche. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ce n'est pas? Est-ce que ça enlève de la puissance au mouvement? Je ne sais pas. Est-ce que le fait que William clairement était sur la saison 4 juste pour faire un coup de pub, puis là, ben, vend du parfum alors que ça n'a aucun rapport, est-ce que ça enlève de la puissance au drag comme mouvement subversif? C'est une question que je me pose.
Non. Je veux pas être aussi péremptoire, c'est ça, mais en même temps, c'est très important. On le sait que il y a encore, les questions sont à double face, là, comme vous présentez tout tantôt. T'sais, on sait qu'il y a quelque chose de très mercantile dans l'idée de faire un brand. Puis il dit, c'est une façon d'exprimer cette pulsion-là ou cette vocation-là. Working on my brand.
Oui.
Mais en même temps, ce brand-là devient tellement important pour la diversité dans la visibilité. Tu sais, comme ce chandail-là est fait, n'est pas directement fait par cette personne-là, mais provient de cette communauté-là ou en ce...
C'est fait par quelqu'un qui vient de cette communauté.
Oui, c'est ça, pardon. C'est ça, c'est là où je me suis enfargé un peu là-dedans, mais c'est très important. Oui. C'est parce que cette... Moi, en même temps, j'étais à demi-mot comme si je disais quelque chose de révolutionnaire. Je ne suis pas pantoute. Tu sais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment cette espèce de comme, oui, il faudrait qu'eux autres aussi puissent se prendre une part du marché. That's
it. C'est ça. Il ne faut pas ignorer qu'on vit dans une société capitaliste.
Mais voilà, c'est ça. Ça revient tout le temps.
Ils sont inclus dans le système. On ne peut pas s'en sortir.
Ils ne font pas différent qu'autrui.
Mais comme,
si. Non, fait d'âme, j'ai envie de dire.
S'ils sont utilisés pour passer un message plus progressiste. Why not?
Ben, c'est ça. En plus, ça donne tellement aussi, comme tu disais tantôt, t'as vu, Jean-Michel, t'as vu quelqu'un avec un t-shirt de Drag Race.
Oui.
Puis tout de suite, tu sais, t'as fait comme, ah, tu sais. Puis je pense que pour moi, ça, c'est un truc positif, en ce sens que maintenant, tu sais, les gens qui trippent sur le drag, les gens qui sont des alliés ou des membres de la communauté LGBTQ peuvent se retrouver à travers ce genre d'initiatif-là, de mon chandail de Trixie Mattel, de tapine de Sacha Velour. Comme pour moi, ça, c'est quelque chose qui est super positif.
Ah oui.
Mais c'est brandé comme un t-shirt de super-héros, là.
Mais c'était un t-shirt d'Alaska, puis c'était à la pizzeria Day Come Paris. Juste à côté de Saint-Denis.
Ben fait, non!
Je te jure. C'est ça, tantôt dans mon introduction, j'étais comme, ah, c'était qui encore? Oui, c'était Alaska. C'était. Je pense que c'était Mimi I'm First que j'ai vu à Ottawa. J'étais vraiment content.
Très cool.
T'as vu Mimi I'm First ou t'as
non, vu? Non, j'ai vu un t-shirt de Mimi I'm First. Oh, ouais, non, non, ça serait autre chose. Mais tu sais, on retourne à cette maxime-là que comme, tu sais, acheter c'est voter, payer c'est voter. Je veux dire, je préfère. Dans ma vie, si j'ai une sacoche, ça va être une purse first, c'est certain, là. Non, mais c'est vrai, parce que je le sais que c'est pas, tu sais, je sais que 30 sous de ce sac à main ira directement à Bob the Drag Queen, puis je suis comme, I will support that, tu sais, c'est comme I'd buy that for a dollar pour ramener les phrases de Robocop.
Oui. De manière totalement gratuite.
Exactement.
C'est merveilleux.
C'est ça.
Je pense que Robocop nous a juste coupé la parole.
Il y a peut-être une dernière chose qu'on pourrait apporter sur RuPaul à laquelle je pensais, c'est que peut-être vous allez pouvoir m'aider, parce que là, je parle de quelque chose un peu sans le savoir. On m'a dit que RuPaul, en fait, s'était fait connaître à une certaine époque par sa gentillesse, ou en tout cas par son ouverture, et qui cassait justement la figure de la drag queen un peu bitch.
Mm-hmm.
Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Bon.
RuPaul, bring back families together.
Ben, c'est ça. Mais c'est, à la base, ça a toujours été ça,
RuPaul. Tu veux dire pre-Drag Race, right?
Ouais, pre-Drag Race, ouais. Ça, son branding, justement, c'était d'être une drag queen aimante, ou je ne sais comment le dire.
Oui, puis c'était une des... Parce qu'en fait, il était en espèce de duo avec Lady Bunny.
Avec Lady Bunny, qui était complètement...
l'opposé. Et donc, RuPaul était... je pense que c'est une des premières drags qu'on a vues à la télé, je dirais grand public, là, peut-être que j'ai dit n'importe quoi, là, mais il me semble
mais
que...
Mais il y a des films de drag queen depuis les années 30, là.
Mm-hmm. Oui, mais je parle de genre télé, ouais. Grand public.
En tant que drag et non pas en tant que personnage de drag queen.
Non, exactement. Oui, ouais, c'est ça. Donc, network américain et tout.
Mais puis, je trouve que... Il a gardé ça dans RuPaul parce que je trouve qu'il peut éliminer quelqu'un en l'aimant de manière fantastique. Et moi, c'est ça qui me porte quand j'écoute RuPaul. C'est qu'il va lui dire, genre... il pleure avec elle devant son histoire, puis il dit « Sachez away ». Ouais. Ouais. Comme, OK, c'est correct. Tout le monde s'aime, tout
okay,
est bon.
OK, d'abord.
Ouais, ça m'a fait du bien.
Puis ça fonctionne particulièrement bien, ce que tu es en train de dire, quand on écoute les épisodes de « What's the Tea ». Mm-hmm, ouais. En fait, il y a un drôle de doublé qui est survenu à l'épisode 106-107. Le 106, c'était avec Adore Delano. Le 107, c'était avec Rose McGowan. Et RuPaul et Michelle Visage sont confrontés à des personnalités extrêmement agressives.
Oui.
Uh-huh.
Adore Delano, on sait, c'est quelqu'un qui a le fuck you très rapide.
Mm-hmm.
Puis Rose McGowan est présentement dans une croisière féministe très importante. Une croisade, pardon, pas une croisière. Malgré que. Why the fuck not? Dans une croisade féministe extrêmement inspirante et importante où elle est en train, comme qu'on parlait, de travailler un branding, de travailler des produits, elle veut réaliser des films, elle réalise déjà des films, mais maintenant elle veut donner l'opportunité à d'autres femmes de le faire et ainsi de suite. Et ce qui ressort de ces épisodes-là, je ne sais pas, je suis le seul en ondes à les avoir écoutés.
Moi, je ne les ai pas écoutés, là en particulier.
Mais ces épisodes-là en particulier, vous ne les avez pas, vous avez pas entendus. Et ces deux femmes-là sont très, 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 très colériques. Extrêmement colériques, à un point tel que RuPaul, vers la deuxième moitié de chaque épisode, devient d'une douceur et d'une tranquillité déconcertante. À un point tel que l'épisode ne devient plus un épisode biographique ni une explication de qu'est-ce qu'ils veulent faire, devient juste RuPaul qui dit « Il va falloir que tu laisses ça aller. »
Ouais.
C'est très, très, très fort comme moment parce que RuPaul devient l'avatar de « Laisse ces affaires-là aller. » Faut que ça sorte. C'est en train de te gruger de l'intérieur.
Oui, il y a vraiment un prendre soin dans RuPaul Drag Race.
Oui, mais RuPaul sert quasiment de thérapeute. Parfois, par certains participantes, là, c'est assez incroyable. Là. Des fois, des personnalités que tu vois évoluer au fil de la compétition. Puis, j'ai la saison 7 en tête parce que je l'ai écouté hier soir, mais je pense à Pearl, justement, qui est comme complètement fermé dès le début, puis après on les voit s'ouvrir et grandir et laisser aller des problèmes qui sont des problèmes de trauma puis d'abus dans leur jeunesse et compagnie.
Et puis c'est fascinant que ça transparaisse dans une émission aussi brandée, aussi calculée au quart de tour aussi
parce qu'il y a des choix au montage à faire et ces moments-là arrive au montage, puis probablement pour leur effet dramatique et beau, mais aussi, je pense que ça donne quand même le ton à le brand de RuPaul de un, mais aussi au self-care, à l'importance du self-care, puis à l'importance aussi de la thérapie, peut-être.
Mm-hmm. C'est là où, dans mon fort intérieur, je pleure énormément la disparition de Santino Rice. Parce que Santino a été déplacé pour des raisons qu'on peut un peu déduire de fil en aiguille, mais pour les gens qui n'ont pas écouté la télésérie encore ou qui y retourneraient, regardez comment Santino regarde RuPaul. Il y a quelque chose d'extraordinairement tendre. Mm-hmm. Santino a... Tu sais, on dit peut-être que ce n'est pas très télévisuel de le faire de cette manière-là, mais il y a toujours le visage dans la main, le sourire...
Il y a d'ailleurs une drag queen qui l'attaque là-dessus, sur la tête en biais. Ouais.
C'est ça, parce que c'est quelqu'un qui... moi, je trouve qu'il y a, comme tu dis, Roxane, le care très fort, puis « It's nice to be Rice » était... regarder Santino, regarder les drag queens, c'est constater à quel point est-ce que cet aspect-là est très important.
Mm-hmm.
Puis j'aime beaucoup Michelle Visage, mais Michelle Visage est à l'antithèse de tout ça.
Absolument.
C'est quelqu'un qui veut sais, c'est
la femme dedans.
Là. C'est ça. Elle veut avoir une augmentation du potentiel par le
par la confrontation.
Ouais.
Puis c'est drôle parce que, tu sais, au All-Star 2 récemment, Adore Delano a abandonné parce qu'elle était arrivée. Puis bon, ça revient quand elle revenait quand même d'une tournée avec Michelle où Michelle l'avait quand même assez drillée pendant toute la tournée. Puis elle est arrivée au premier épisode. Puis Michelle lui a donné de la marde. Parce que, mon Dieu, excusez, j'ai dit marde.
Totalement le droit.
J'ai déjà fait une litanie de sacre en ondes.
Ouais. Okay, c'est beau. C'est une vidéo sur les sacres.
C'est une vidéo sur les sacres.
Je me dis, si jamais ma grand-mère écoute ça et m'entend dire ça, elle sera pas fière. Mais bref.
Bonjour.
Donc, hello. Et donc, on a Adore qui est arrivée, qui s'est faite quand même rabrouiller assez solidement par Michel Visage et qui a dit, ben vous savez quoi, moi j'abandonne All Star, je suis pas capable de le faire, je m'en vais. Puis ils ont essayé quand même fort de la faire revenir, ça a pas fonctionné. Puis Adore elle a dit, vous savez quoi, en ce moment je suis pas un bon moment dans ma vie, puis ça m'apporte rien d'être ici puis de me faire rentrer dedans à chaque semaine puis de me faire démolir l'estime, puis je veux pas le faire. Puis Adore est partie. Puis pour moi, ça a été... Tout le monde était super déçu que Adore parte, mais en même temps, je trouve que... tu sais, RuPaul a tellement respecté sa décision, a compris pourquoi Adore partait, l'a supporté. On voit, tu sais, des extraits où RuPaul dit, comme, garde, si tu sens que t'es pas capable, tu t'en vas, puis c'est correct. Puis pour moi, ça a montré tout le contraste, comme tu dis, entre RuPaul slash Santino, parce que c'est vrai que Santino était vraiment intéressant à regarder, critiquer, et Michelle qui a vraiment l'approche qui est un petit peu plus forte, et RuPaul qui a l'approche qui met de l'avant le care et
mais qui est better angel better demon.
Il y a de ça aussi,
c'est très important,
très télévisuel.
Voilà,
il y a de ça aussi, mais tu sais, justement, ça va, ce qui est intéressant justement dans ce côté de self-care là, c'est que ça va à l'encontre du stéréotype justement de la bitch, de la grande folle, de machin, de voir ce côté là puis tu sais, pour certains membres de la communauté gay, j'insiste sur gay et non pas LGBTQ, vraiment, justement, tu sais, vont négliger le côté plus, tu sais, vont mettre des choses négatives sur le côté plus doux, le côté de care, que c'est trop féminin, tu sais. Alors que là, dans ce cas-là, c'est totalement assumé. Et non seulement c'est assumé, mais on le voit que c'est correct, tu sais.
C'est important.
Que
même.
C'est important, voilà.
Puis c'est central à l'approche de drag. Moi, je vois souvent, par exemple, je regarde des personnes comme Trixie puis Katia dans la saison 7 où c'était un peu désastreux leur truc. On voyait que les deux étaient super anxieux, ça fonctionnait pas vraiment, sont partis, puis là j'étais comme mais, et récemment bon, ils ont commencé à faire une série ensemble qui s'appelle sur YouTube, et
tu peux juste dire non,
je pense que c'est terminé. Ça a été le seul moment où je vais faire ce bruit là ever, et c'est ça. Donc ils ont commencé à faire cette série là ensemble et on voit que les deux sont dans un beaucoup plus bel endroit dans leur tête maintenant, qui ont pris du temps pour s'occuper de leur santé mentale. On voit qu'elles sont épanouies, heureuses ensemble, elles travaillent ensemble, puis elles font exactement ce qu'elles veulent faire. Puis pour moi, c'est tellement beau, c'est mes deux préférés ensemble. Allez sur YouTube, écoutez ça. Non, je ne le referai pas. OK, je peux le refaire, attendez. Est-ce que vous êtes capable de le faire en même temps que moi? Je pense que ce serait beau.
Ça va peut-être fausser.
Je me rappelle plus c'est quoi.
1, 2, 3.
Il ne pourrait pas y avoir une plus belle conclusion. Non, mais sérieux, c'est vrai. Il faut que ça se termine tout de suite. C'est pas. Il y a le temps, mais il y a aussi ce pinacle de moment radiophonique.
Je pense que ça y est.
J'ai passé une heure exceptionnelle avec vous. Merci beaucoup. Sandrine, merci. Roxane, Megan, Rachel et Maud qui est partie faire du care pour elle-même. On n'a pas le choix. On va quitter en écoutant c'est that. Wow.
Oh yes.
Bon
yes.
Myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mama said. People talking since the beginning of time. Unless they paying your bills, pay them bitches no mind. And if I fly or if I fall, least I can say I gave it all. And if
sissy that wild. That wow.